Radio Déclic.
Encourager la fraternité. C'est pas quelque chose qu'on peut vivre chaque jour.
Radio Déclic.
On aime découvrir d'autres cultures.
Ce sont des messages qu'on fait passer.
Fréquence Paris Pluriel, 106.3. Eh bien, bonsoir, vous êtes bien à l'écoute de Radio Déclic sur les ondes de FPP 106.3. Aujourd'hui, dans le studio, Georges. Georges, bonsoir.
Bonsoir à tout le monde.
Alors, Georges, dans les rendez-vous de Georges, aujourd'hui, on va parler d'une grande femme.
Grande femme internationale, c'est Josephine Baker.
Voilà, donc pour Josephine Baker.
On va essayer de comprendre un peu sa vie et de suivre son modèle dans la vie de tous les jours.
Et puis, alors, on a un nouveau pour cette émission, c'est Adem. Adem, bonsoir.
Bonsoir Florence, bonsoir à tous.
Alors Adem, toi tu vas nous présenter les infos sportives.
Exactement.
Sportives.
Oui.
Et puis, la chronique high-tech de Senzo. Bonsoir Senzo.
Bonsoir. Et donc aujourd'hui, on va parler des idées reçues sur les batteries des smartphones.
On écoutera un reportage de Mehdi sur le remontage de la flèche de la basilique de Saint-Denis, suivi d'un autre reportage sur le jury des courts-métrages du panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient. Et puis, nous avons un invité avec nous, c'est Fred Luizor. Fred Luizor, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, Fred Luizor, on le connaît bien à Radio Déclic, auteur, musicien, chanteur, interprète, compositeur et auteur notamment de recueils, puisqu'on le reçoit aujourd'hui pour son recueil « Peau et si ». Alors, on verra hein, tout à l'heure, parce qu'on sait que M. Luizor adore les jeux de mots, donc je vous expliquerai tout ça, et notamment sur le titre de son recueil. Voilà, en tout cas, pour l'heure, c'est les informations. Alors, non pas le journal d'information, mais c'est la page sportive des informations. Et on commence tout de suite avec les informations sportives de Adem.
Donc bonsoir à tous, on va parler comme l'a dit Florence de l'actualité sportive car nous sommes actuellement aux dates FIFA du mois de mars et les mondialistes se préparent pour la plus grande compétition à trois mois de cela. On commence par le pays organisateur, la Russie, qui depuis son attribution à la Coupe du Monde est habitué à l'échec avec des instances de premier tour à la Coupe du Monde 2014, à l'Euro 2016 et à la Coupe des Confédérations 2017 qui justement ils avaient joué à domicile aussi vu que c'est un an avant la Coupe du Monde et ils n'ont pas confirmé un bon début de préparation face au Brésil par une défaite de 3-0 avec des buts signés Miranda, Coutinho et Paulinho et encore moins face à la France sur le score de 3-1. Leurs adversaires de la Coupe du Monde, l'Égypte, a été défaite 2-1 face au Portugal. L'Uruguay a été vainqueur 2-1 face à la Tchéquie et également face au Pays de Galles sur le score de 1-0. L'Arabie Saoudite, qui seront leurs adversaires lors du match inaugural au stade Luzinki, a fait un nul contre l'Ukraine, dirigé par le légendaire Andriy Shevchenko, qui était connu notamment en tant que joueur lors de son passage au Milan AC et qui n'ont pas pu se confirmer non plus, l'Arabie Saoudite qui n'a pas pu se confirmer non plus face à la Belgique sur le score de 4-0. Dans les autres matchs, la Colombie a vaincu la France 3-2 après avoir été menée 2-1. La Pologne, malgré la présence de leur capitaine Robert Lewandowski, ont été vaincus 1-0 face au Nigeria, mais se sont rachetés face à la Corée du Sud 3-2. L'Angleterre a battu les Pays-Bas qui souffrent d'un trou générationnel depuis la Coupe du Monde 2014 où ils étaient arrivés 3e, mais se sont rachetés face au Portugal sur le score de 3-0. L'Argentine, qui avant la dernière journée était dans le doute d'une qualification mondiale, avant la dernière journée ont battu l'Italie, qui à la surprise de tous se sont fait éliminer contre la Suède, qui malgré cette victoire contre les Italiens se sont fait écraser contre l'Espagne 6-1. Le Maroc a battu la Serbie 2-1 et l'Ouzbékistan 2-0. La Costa Rica, qui fut la grande surprise du dernier mondial où était à bout de l'Écosse sur le score de 1-0. La Suède qui ont fait comme la surprise en se qualifiant contre la Squadra Azzurra a été défaite par le Chili qui eux aussi ont fait la surprise mais en étant éliminés après avoir gagné deux Copa América. C'est la Copa América 2015 où ils étaient à domicile et la Copa América Centenario qui avait été faite pour commémorer le centenaire de la Coupe d'Amérique du Sud des Nations comme son nom l'indique. Le Pérou a vaincu la Croatie malgré les présences de Mario Mandzukic et Luka Modric, mais la Croatie qui ont battu 3 jours après le Mexique 1-0. Et justement, le Mexique qui avait justement eux aussi 3 jours avant avait déjà perdu 3-0 contre l'Islande. Zlatan Ibrahimovic à Los Angeles Galaxy. Après 19 ans sur le vieux continent, Zlatan Ibrahimovic se lance un nouveau défi à la Cité des Anges. Ayant résilié son contrat avec Manchester United la semaine dernière, le géant suédois connaît son 9e club pour la première fois dans une confédération différente de l'UEFA. L'ancienne vedette du Paris Saint-Germain n'est pas le premier européen à fréquenter ce club, en effet, car d'autres stars du vieux continent sont déjà passées, telles que David Beckham, Steven Gerrard, Robbie Keane et actuellement Romain Alessandrini, qui était encore l'année dernière encore à l'Olympique de Marseille. Bonne façon de se racheter au niveau du football pour les États-Unis qui manqueront la prochaine Coupe du Monde. En 19 ans de carrière en Europe, son palmarès est en tout championnat confondu, c'est 11 championnats nationaux, 3 coupes nationales, 9 super coupes nationales, une super coupe de l'UEFA, une coupe du monde des clubs et enfin une Ligue Europa. Il lui manque juste le plus gros trophée qui est la Ligue des Champions, mais c'est pas celle de l'UEFA, ça pourrait être celle de la CONCACAF. En conclusion, que dites-vous d'un retour de Zlatan en équipe de Suède au Mondial? En se rappelant de sa publication Instagram qu'il avait mis juste après la qualification de l'équipe scandinave qui indiquait « We are Sweden, nous sommes la Suède, Z comme Zlatan ». Rabah Madjer bientôt viré. Rabah Madjer ne fait pas l'unanimité de l'équipe d'Algérie. N'ayant pas entraîné depuis 11 ans, il est très souvent critiqué par ses choix et ses méthodes. Allons faire un bilan de ces 5 mois à la tête de l'équipe nationale. Le 18 octobre 2017, Rabah Madjer est pressenti à la nomination du poste de sélectionneur. Une heure avant sa nomination, un sondage émis par DZ Foot demande l'avis des internautes. Et le sondage répond majoritairement à la question la plus négative du sujet. Malgré ça, il est quand même nominé sélectionneur national et déclenche une polémique. En sachant que ce fut le 4e entraîneur en un an. Un mois après, il crée encore le doute lors de la liste des 23 joueurs face au Nigeria et à la Centrafrique, avec l'absence de beaucoup de joueurs forts tels que Raïs Mboli ou Sofiane Feghouli, auteur d'une bonne saison avec son club. Face aux Super Eagles, déjà qualifiés qui ont mis une équipe B, les Fennecs font un match nul de 1-1, mais gagnent 3-0 face à une faible équipe de Centrafrique. Mais avec justement un match avec des buts plutôt évidents. Après ce match, Madjer a une altercation avec un journaliste de la radio qui s'appelle La Chaîne 3. Ce journaliste qui est nommé Mamar Djebbour, face à qui, malgré une question plutôt normale et sans plus à son capitaine Riyad Mahrez, le sélectionneur préfère répondre à sa place pour lui dire, je cite, « Taisez-vous, prenez votre retraite et laissez la place aux jeunes. » Pour la période de mars qui est en ce moment, il n'y a pas de grands changements, toujours avec les non-convocations de Mboli, qui là par contre retrouve du temps de jeu en club, et de Feghouli où la situation n'a pas changé puisqu'il est toujours bon en club, il n'y a toujours rien à dire. Mais étrangement, il convoque Safir Taider qui joue au Canada, Bagdad Bounedjah qui joue au Qatar et surtout Islam Slimani, toujours pas rétabli de sa blessure. Sachant que son entraîneur en club, Rafael Benitez, avait bien dit qu'il serait inapte jusqu'au 31 mars, soit après les deux matchs. Donc il n'y avait pas de situation urgente pour le convoquer. Surtout que ce sont deux matchs amicaux. Face à la Tanzanie, l'Algérie s'impose 4-1, mais sans vraiment de difficultés, mais montre un autre visage face à l'Iran de Carlos Queiroz, qui, lui, avec cette équipe d'Iran, jouera la Coupe du Monde. Et c'est l'Iran qui est vainqueur de 2-1. Il faudrait d'ailleurs expliquer pourquoi Mahrez et Hani étaient en défense et Benzebaini en attaque, soit à l'opposé, complètement à l'opposé de leur position habituelle. Pour information, que ce soit le premier ou le deuxième match, Rabah Madjer s'est présenté à aucune conférence de presse et aucun interview de zone mixte. C'est son adjoint Jamel Ménat qui y est allé, probablement suite aux altercations survenues 5 mois plus tôt. En conclusion, Rabah Madjer actuellement, pour moi, de mon avis personnel, Diego Maradona, dans le sens où c'est l'idole du pays en tant que joueur, mais qui régresse en réputation avec le statut du sélectionneur national. Justement, car Diego Maradona avait à peu près la même situation lors de la Coupe du Monde 2010. Sauf que si Madjer ne se rachète pas pour le mois de juin, ce qui pour moi semble serait probable, il faudrait imaginer le scénario face au Portugal de Cristiano Ronaldo.
Voilà, ben merci notre expert en foot, Adem.
Radio Déclic 106.3, 106.3, 106.3, 106.3.
C'est l'heure des reportages, un reportage de Mehdi au sujet de la rénovation. Enfin, ils vont remettre en fait la flèche de la basilique. Donc, la ministre, Madame Nissen, est venue à Saint-Denis pour signer cette convention. On écoute tout de suite un reportage de Mehdi.
Vous le savez sans doute, le clocher nord de la basilique de Saint-Denis, qui s'élevait depuis 1219 à 86 mètres de hauteur, fut, après avoir été fragilisé par la foudre en 1846, démonté pierre par pierre et conservé intégralement à la médiathèque de l'architecture et du patrimoine. La seconde flèche de la basilique n'attend plus qu'à être remontée et c'est ce qui va se passer dans les années à venir. C'est un vieux projet qui se concrétise. En 1987 déjà, Marcelin Berthelot, alors maire de la ville, propose le remontage de la flèche au conseil municipal. Les acteurs ne sont pas défavorables, mais quelques années après, un projet de bien plus grande envergure se met en place, le Stade de France. C'est vraiment en 2013 que les choses sérieuses vont reprendre. L'État a engagé plusieurs millions d'euros dans la rénovation de la façade et un comité de parrainage de la flèche se met en place. Ces actions sont médiatisées et deux ans plus tard, François Hollande, président de la République, vient visiter la basilique et cela marque une nouvelle étape dans ce projet fou avec pour nouveau mot d'ordre « Suivez la flèche ». Dernière date clé dans la reconstruction, samedi 17 mars dernier, la signature de la convention cadre en présence de Françoise Nissen, ministre de la Culture. Il s'agissait de définir les bases afin de se lancer au plus vite dans la réalisation concrète. Le chantier a plusieurs objectifs. Premièrement, faire de ce projet un projet de transmission et de partage.
Le chantier sera ouvert au public dans un projet dynamique et porteur. Et là, j'insiste, des actions de sensibilisation, d'éducation et de formation seront conduites tout au long du projet. Des classes vont pouvoir venir étudier le monument, assister à l'évolution des travaux, et des jeunes apprentis auront l'opportunité de venir faire leurs armes, des savoir-faire et des métiers d'art seront forgés. Ce chantier hors du commun sera un espace de transmission, un espace de rencontre, un espace de partage, et vous savez combien tout cela est au centre de la politique que je mène contre cette ségrégation culturelle dans un pays où la proposition culturelle est magnifique, mais où il s'agit de la rendre perceptible, accessible à tous, et de la transmettre et de la partager.
Faire rayonner la ville et le territoire font aussi partie du projet pour détruire les clichés qui règnent sur la banlieue.
Pour que les regards changent, pour que les stéréotypes tombent, pour que ce territoire soit vu comme il est, c'est-à-dire comme le reste de notre pays, ni plus ni moins vivant, divers, avec ses défis et avec ses atouts pour le relever. Pour rappeler à tous ceux qui en doutent que l'histoire de France s'est écrite depuis toujours et continuera de s'écrire à Saint-Denis. Parce que pour que cette basilique, cet édifice hors norme, ce chef-d'œuvre architectural, ce haut lieu de mémoire soit aussi connu et reconnu que Notre-Dame, Reims ou Versailles, pour que le patrimoine soit ici comme ailleurs, un levier d'attractivité et d'identification du territoire.
De nombreuses retombées sont prévues localement, notamment en matière d'activité et d'emploi, puisque le chantier sera générateur d'embauches qui seront prioritairement réservées aux personnes issues du territoire de la Seine-Saint-Denis. Bien sûr, le chantier de reconstruction attirera beaucoup de touristes et ainsi pourra développer l'économie locale.
I'm Bonjour mesdames et messieurs, je suis Alima. Je chantais la chanson de Fayrouz. C'est une chanteuse libanaise.
Le panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient a débuté depuis mardi dernier et se terminera le 14 avril. Créé en 2006 à Saint-Denis, le panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient est un festival cinématographique international ancré dans le paysage culturel d'Île-de-France. Plusieurs rendez-vous culturels sont organisés pendant la durée du festival et le panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient se distingue par la variété de ses lieux de diffusion, outre les salles de cinéma, projections dans les quartiers, dans les écoles, à l'université et dans les médiathèques. Comme chaque année, un jury composé de lycéennes et lycéens de Sugère, accompagnés et encadrés de leurs parrains, le réalisateur et comédien Lies Salem, se sont réunis au cinéma L'Écran pour visionner une dizaine de courts-métrages et d'en sélectionner deux pour décerner le prix du court-métrage. On a rencontré deux membres du jury au micro de Radio Déclic.
Bonjour, je m'appelle Livia Napolitano. Je suis en terminale L au lycée Sugère et ma spécialité en L, c'est cave cinéma audiovisuel.
Bonjour, moi je m'appelle Jasmine. Comme Livia, je suis en terminale L et je suis en spécialité audiovisuel.
Alors ça veut dire que vous vous destinez plus tard à quoi dans l'audiovisuel ? Le côté technique, le côté réalisation, écriture ?
Au début, je me dirigeais vraiment sur quelque chose de technique parce que j'ai intégré ce cursus en seconde. Mais plus j'avance dans mes études et plus je me dirige vers quelque chose de plus artistique, on va dire, dans la mise en scène ou l'écriture.
Bah, moi, c'est encore vague un peu, mais c'est tout l'aspect, on va dire, scénaristique et mise en scène qui m'intéresse beaucoup aussi. Enfin, tout ce qui est autour de l'acting et tout qui m'intéresse beaucoup.
Alors, toutes les deux, vous êtes lycéennes au lycée Sugère de Saint-Denis. Et alors, spécialement aujourd'hui, on se rencontre au cinéma L'Écran parce que vous faites partie du jury dans le cadre du panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient. Donc, vous avez vu un certain nombre de courts-métrages pour décerner un prix. Alors, quels ont été les critères de sélection pour choisir le meilleur court-métrage ?
Alors, déjà, le scénario, s'il était touchant, intéressant, qui parlait de thèmes plutôt intéressants, et aussi d'actualité, et aussi l'esthétique, l'image, comment il a été tourné, les cadres, les plans qui sont intéressants, et ouais, voilà, le sujet traité surtout, entre autres.
En tant que jury, je regardais beaucoup le jeu des acteurs, c'est ce qui m'intéressait le plus. Après, la question du scénario aussi, elle est très importante. Et comme nous, on est en audiovisuel, donc c'est orienté déjà vers quelque chose de plus technique. On regardait comment le film était rythmé, au niveau du montage, du son, de l'image. Toutes ces parties techniques m'intéressaient moins, mais c'est vrai que ça donne forcément quelque chose en plus au film. Et selon les critères, c'est vrai qu'on n'avait pas tous les mêmes opinions sur les mêmes films. Donc du coup, à la fin, on a dû en débattre et ouais, partager nos idées et voter. Ouais.
Alors finalement, quand vous allez maintenant au cinéma, personnellement, voilà, avec vos amis, est-ce que vous avez un regard différent sur les films ?
Bah, c'est vrai que depuis que j'ai commencé la spécialité, je porte vraiment un regard vraiment différent de quand j'étais un peu plus jeune et que j'allais voir des films parce que juste la bande-annonce, elle m'avait plu ou des choses comme ça. Là, enfin, on s'intéresse vachement plus, on va dire, au scénario, au jeu d'acteur surtout, et puis aussi au clin d'œil à des vieux films et aussi les cadres choisis, et surtout après, habituellement maintenant, quand je vais voir un film américain, un blockbuster bien américain de super-héros, et où on voit l'énorme couche d'effets spéciaux qui font vraiment mal aux yeux. Là, on se dit, ah oui, voilà, ça nous ouvre quand même, on va dire, les yeux. Ça nous montre un côté différent, on va dire, des films.
Ben moi, c'est une question qui m'a été beaucoup posée par mes parents parce qu'ils ils sont contents de nous voir dans des spécialités comme celle-ci. Et moi, personnellement, c'est vrai que justement, les clins d'œil à des films anciens dans des films nouveaux, nous, on les remarque
plus facilement.
Plus facilement. Moi, je m'attarde aussi, je m'amuse aussi des fois quand le film. Les faux raccords. Les faux raccords, du coup, nous, ça nous amuse. Bon, c'est. Après, c'est des trucs que d'autres gens peuvent remarquer même sans faire cette spécialité. Mais ouais, je pense que notre regard, il a changé. On est un peu plus dur, du coup, et on voit une autre réalité.
Notre jugement, il est un peu plus cocasse, quoi.
Ouais, cocasse.
Et alors, peut-être pour finir, bientôt, le top départ du panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient, donc avec pas mal de films donc au cinéma à l'écran de Saint-Denis, qui accueille aussi ce panorama. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'initiative ?
Les panoramas, je ne connaissais pas ce format-là. Enfin, on connaît les festivals ou les choses comme ça. Bon, en soi, c'est un peu comme un festival. Mais d'intégrer un panorama dans une ville comme Saint-Denis, je trouve ça vraiment extrêmement bien, en fait. Je trouve que ça apporte vraiment des choses qui ne sont pas forcément accessibles à certaines personnes. Et même nous, en tant que lycéens, par exemple, le fait d'avoir participé en tant que jury dans un panorama dans une ville comme Saint-Denis, je trouve que ça nous apporte et ça va beaucoup nous apporter plus tard dans la vie.
Et puis, même si au départ, c'est pas une initiative de nous-mêmes et que c'est le lycée qui nous invite à venir, même si c'est pas nous qui allons de notre propre choix, c'est toujours intéressant parce que en fin de compte on s'y plaît, on s'amuse à regarder, on s'amuse à voter et puis ça nous ouvre des portes, ça nous donne une autre vision, on va dire, du court-métrage et du cinéma en général.
Arraché à ma mère, je suis perdu, enchaîné au galère. On m'a vendu, bienvenue en enfer, sucre amer, je suis battu. Entravé comme mes pères, je suis vaincu.
Madina, on part dans les Caraïbes. Alors c'était un morceau sucre amer, un morceau de Fred Luisor, comme je disais tout à l'heure dans le sommaire que nous recevons aujourd'hui, Fred Luisor. Mais cette fois-ci, non pas en tant que musicien, en tant qu'interprète ou compositeur, mais en tant qu'auteur, puisque Fred Luisor sort son recueil Poésie. Alors Poésie, ça s'écrit Po comme la peau humaine, P-E. A-U-X, et avec le symbole du et si, C-I-E. Voilà, donc jeu de mots parce que c'est vrai que on a pu s'en apercevoir déjà dans les deux albums, puisque il a sorti deux albums. L'extrait Sucre Amer, c'est de son deuxième album qui s'appelle Sans Complexe. Alors pareil, avec un jeu de mots, c'est sans et complexe comme un complexe. Donc Fred, bonsoir tout d'abord.
Bonsoir.
Alors Fred, on pourrait dire Fred le maître des mots.
Non, on essaye en fait de traduire ce qu'on ressent. Je peux dire que je voulais faire un petit jeu de mots et toujours pour en ce qui concerne la musique Et en ce qui concerne les poèmes, ce sont des ressentis, en fait, ce sont des choses. Maître, non, on reçoit, hein, on reçoit des choses, en fait, et oui. Puis on les retranscrit.
Alors, quand je dis mettre des mots, c'est parce que c'est vrai que les jeux de mots sont très présents dans ton travail artistique, hein, que ce soit au niveau de la musique, dans les deux albums. Le premier, c'était Tendance, pareil, le temps, T-E-M-P-S, et Danse, la danse, avec un S. Le deuxième album, Sans Complexe, le sang, donc le sang, S-A-N-G, et Complexe, C-O-M-P-L-E-X-E, voilà, et puis aujourd'hui, ce recueil Peau et compagnie. Alors, explique-nous un petit peu ce recueil. Voilà, pourquoi cette envie de mettre l'écriture, ta plume, sans la musique cette fois-ci.
Ah ben, c'est disons que si c'est une mort, la musique, on va essayer de renaître à travers renaître d'entre les mots, n'est-ce pas?
Oui. Alors quand je vous disais, voilà, les jeux de mots sont là.
On va essayer de... Non, mais en fait, il faut... Ce qui m'intéresse, c'est toujours de proposer des choses. Donc on a la musique ne permet pas tout le temps de... En fait, quand on parle de musique, il y a aussi musique et parole. Là, je voulais simplement... Que les gens puissent s'approprier les poèmes, puisque c'est un recueil de poèmes, sans musique, qui mettent leur musique à eux, leur musique, musique du temps, musique de là où ils lisent le poème, quoi. Bon, la musique du vent, quelle musique.
Comme on dit, les paroles s'envolent et les écrits restent.
Oui, on peut dire ça. Hein. Qu'est-ce que ça dit? Les paroles s'envolent et
les écrits restent.
Ouais, c'est bien. Oui. J'ai pas encore pensé à ça. Hein.
En tout cas, les écrits, ils resteront, puisque il y a ce marqué, recueil là. Peau et compagnie, on peut dire aussi. Hein, oui. Poésie, poésie, voilà. Chacun et chacune y mettra son regard à travers ces textes. En tout cas, des textes avec toujours les mêmes thématiques qui reviennent, hein, que ce soit dans tes albums et là aujourd'hui dans ce recueil, la religion. Ton île natale, puisque tu es originaire de la Martinique. Voilà, et puis la mémoire, hein, ça c'est quelque chose de très important pour toi aussi.
Oui, donc il faut toujours. Il faut savoir d'où on vient en fait. Donc c'est pour ça la mémoire, c'est pour ça que j'insiste. On est africain, qu'on le veuille ou non, hein. Et tous autour de la table, on est africain. Même ceux qui sont en Europe sont africains, puisque ils partent. Si les Noirs n'étaient pas partis d'Afrique, il n'y aurait pas eu de blancs.
Le berceau de l'humanité.
Ouais, c'est le berceau de l'humanité en fait. Hein. Donc il n'y aura pas eu de Chinois, il n'y aura pas. Donc on fait tous partie du même. Justement, on n'est que des sangs complexes en fait. On fait tous partie de ça, de l'univers, de la terre, de qu'est-ce que je peux dire encore. Donc je rappelle, que je sois Martiniquais, c'est un hasard hein, en fait. Hein. C'est un hasard que je sois Martiniquais. Donc j'aurais très bien pu être Guadeloupéen ou autre, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tous les esclaves ils arrivaient tous en Martinique, et puis de la Martinique on les envoyait soit à Cuba, soit
dans les
Jamaïque,
différentes îles
dans les
ex-colonies.
Donc donc nous sommes des Africains déportés, des anciens Africains déportés, voilà.
Voilà. Alors pour revenir à ce recueil, pourquoi cette envie de poser ces mots, hein, tu nous as expliqué tout à l'heure, au moins ça, voilà, ils vont rester. C'est un projet qui était là depuis assez longtemps dans ta tête.
Donc ça fait un moment que j'écris, mais j'écrivais un petit peu un petit peu... bon, j'écrivais pour faire les chansons, bien entendu.
Oui, mais là, c'est un autre style, en
voilà.
fait.
Et j'avais des textes qui étaient là, quelques textes. Et puis, je suis tombé malade en Martinique, puisque je suis parti 2 mois en Martinique. Et je suis tombé malade, donc j'ai mis à profit ça. J'ai dit, bon, oh là là, j'ai des trucs à faire. Et je me suis mis à écrire, à compléter les autres textes. Et les autres textes que j'avais. Et dès le départ, je savais que ça allait s'appeler poésie. Poésie, puisque...
Tu avais déjà pensé finalement à ça, au titre, déjà, avant même...
Avant même la réalisation ouais. du truc. Donc c'est sûrement parce que j'étais malade, je ne savais pas trop ce que j'avais, que j'étais un petit peu bloqué. Que j'ai continué à écrire et à proposer poésie, un recueil de poèmes. Et j'ai tenu que ce soit en français pour que tout le monde comprenne, parce que tous mes textes ne sont pas en français. Il y a des textes en créole, mais tout le monde ne comprend pas le créole.
Mais tu n'as pas envie quand même, à un moment donné, voilà, de faire un recueil en créole, parce que l'expression n'est pas la même, l'image n'est pas la même, les textes ne sont... Enfin, voilà, à mon sens, il y a beaucoup plus de puissance en créole, parce que quelque part, dès qu'on le traduit en français, ça perd un petit peu, moi, je trouve, de son... du texte, hein, non ? Qu'en penses-tu ?
Non, parce que c'est pas le même travail, en fait.
Oui.
Ça n'a rien à voir, Tous les poèmes, je les ai pensés en français, je n'ai pas pensé en créole.
D'accord.
Si je pense en créole, je fais en créole.
Par D'accord.
exemple, tu vois, si je dis, si par exemple, si il y a un poème qui s'appelle En phase, donc c'est pas parole en tête qui a fait phrase. Les démons en phase, tu vois, c'est des trucs qui se répètent en nous passant épithètes.
Alors, il faut traduire, hein, parce que
tous
nos auditeurs ne sont pas...
On nous mâche peut-être pour mettre destin ou en mettre, parce que si Djendjian c'est la fête, toute la fête pas Djendjian. Donc, ça veut dire il faut qu'on marche l'esprit ouvert, tu vois. On nous mâche peut-être pour mettre destin ou en mettre, il faut qu'on marche l'esprit ouvert pour qu'on puisse, et pour qu'on soit maître de notre destin. Parce que si Djendjian c'est la fête, bon, le Djendjian chez nous, c'est comme le djinn qui est un sorcier dans les pays africains. En fait,
africains, orientaux, etc. Le djinn, ouais.
Et nous, le djinn, ça vient de ça, en fait. C'est une sorte, c'est même pas un sorcier, c'est un truc de carnaval, en fait. Alors, je dis que tous les carnavals ne sont pas... C'est pas parce qu'il y a le djinn que le carnaval est... Enfin, tous les carnavals ne sont pas bien, quoi. C'est ce que je voulais dire. Mais c'est compliqué.
Les
traductions de créole, c'est très compliqué, ouais. En fait. Il faut comprendre les subtilités du créole.
Oui, non, mais c'est pour ça qu'il faut... Il faudrait qu'on puisse parler toutes les langues, parce que pour les autres langues, c'est aussi la même chose. Dès qu'on traduit, ça perd finalement sa valeur.
C'est que j'ai un projet de roman, en fait. Et le projet de roman, c'est la...
Ah, un scoop pour nous, un projet de roman. Explique-nous ça.
Eh bien, ça fait longtemps. Ça s'appelle la route des mornes, en fait. Hein, le truc de poème. Donc, le projet de roman, c'est le... En fait, j'ai perdu ma mère à 9 ans et demi. Et mon père m'envoie chez ma grand-mère qui habite à 10 km, en fait. Et sur la route, il y a des gens qui me devancent, qui ont su que ma mère était morte, qui me disent, j'entends, on appelle ça la rumeur.
Oui.
Et je monte avec ça. Oui, il a perdu, c'est lui, il a perdu sa mère, tout ça. Et c'est ce parcours initiatique-là que j'ai besoin de c'est le roman, ça va être ce parcours initiatique-là. Donc, tout mon parcours, pour aller chez ma grand-mère, arriver chez ma grand-mère, lui annoncer la nouvelle et mon retour. Donc le problème, c'est que je me rappelle de la montée et je me rappelle pas du retour, en fait. En tout cas, le roman devait s'appeler comme ça. Elle est là devant moi entre Sarro et Duchesne. Elle est là derrière moi, gravée sur mes peines. J'ai si souvent adoré ce chemin des champs, des jours heureux. J'ai si souvent détesté ces mornes, ces sentiers rocailleux. Elle ne finit pas de monter cette route aux trois chapelles, elle ne finit pas de crier son courroux au vent rebelle. Bon, après, ça continue, continue.
Voilà, en tout cas, si vous voulez découvrir tous ces poèmes, alors où est-ce qu'on peut se procurer ce recueil, Fred, poésie?
Donc,
c'est aux éditions, d'ailleurs.
C'est édition Madkem. Madkem, qui est audition, c'est édition, comment on peut dire, c'est un site. Hein. Audition Madkem. Et c'est, là, on est en train de, comment on appelle ça là, de le référencer, en fait. Hein. Il faut que ce soit référencé un peu partout puis que, pour qu'on puisse le retrouver dans les librairies, tout ça. Mais, dans un premier temps, on peut le retrouver sur le site, ça s'appelle Madkem, qui s'appelle M-A-2-A-T-K-E-M, et c'est sur Internet, hein, en fait, hein, dans un premier temps. Et après, on pourra continuer sur les librairies, sur tous ces trucs. Hein.
Voilà, puis on pourra certainement le retrouver sur ton site, parce que tu as un site
oui,
aussi.
Oui, et effectivement, le poème, c'est sur mon site, fredlouisonmusic.com, pas musique, hein, music, M-U-S-I-C.com. Donc, c'est poésie pour et compagnie. Et c'est édition Madkem, un recueil de poèmes par un cercueil de problèmes.
Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Fred. Et puis, on va terminer en musique avec un titre de ton deuxième album qui s'appelle Sakitao.
Sakitao, c'est Tao.
Gaza, c'est pas parce qu'on a fait sick qu'il joue. J'aime ma café miel. Jiffy Matnik, désolé. Pas sur Disney, Congo. Car je sais produit tout partout. Puis, mais ça blanchit la bouille. Puis, racheter, chiver ma mangue. Pour mettre, chiver l'état. Mes chéris, la bonheur, la chiver, grenier, là. C'est tout faux sous. Moi, j'ai trouvé qu'il n'est trop gros. Y'a, il fait chérie, esthétique. C'est pas y'en a qui prêtit, aujourd'hui là c'est pas capoté. Mais n'est-ce là-bas efficace, n'a son envie de respirer. Mais doudou, c'est quoi, n'est-ce pas? Car on est content.
Ça qui t'a ou c'est ta?
Oui.
Avant ça qui pas ta?
Non.
Ça qui t'a ou c'est ta? Avant ça qui pas ta? Regardez ça la vie pas.
Regardez y est.
Ça qui t'a ou c'est ta?
Regardez y est. Cave miel, tu figuata caplere, idiot baisse ma cochon. Mettez des yeux couler la main, pas où les gars marchent tout en l'air. Mais tout ça bien ridicule, pas des yeux ça la va caouer clé. Mais l'amour, ces yeux cochon, encore fait moins vivre. Je dis, mettez les va merci. Pour l'encadre des gars toujours souris. C'est pas souris qu'à souris. Tes lèvres à l'arrêté bloqué. Mastiqué mais pas mastiqué. C'est bien paillé qu'à manger. Mais chéri, c'est pas sous jol ou à yo tout jol. Marcher en travers, consigne pour la rivière. Malgré il fait les positions, sans respect, bon dans la carte terminée. Mais doudou, c'est gros bon temps là, qu'a fait y rêver.
Vous venez d'écouter le titre Sakitao Setao de Fred Luisor qu'on a reçu. Et je rappelle son recueil Poésie que vous trouverez bientôt dans toutes les librairies. Et en attendant, ben, envoyez-nous un message soit sur la page Facebook Radio Déclic, soit par le mail radiodeclic@gmail.com si vous voulez avoir en priorité les infos. Voilà. Et on va enchaîner tout de suite avec les rendez-vous de Georges.
Et tout de suite, sur Radio Déclic,
la chronique de Georges.
La chronique. chronique de Georges. C'est maintenant.
Alors Georges, aujourd'hui on parle d'une grande femme.
Exactement, exactement d'une grande femme. Mais avant de parler d'une grande femme, j'aimerais bien montrer ma joie aujourd'hui. Parce que je suis très heureux aujourd'hui.
Dites-nous pourquoi.
Franchement, je suis très heureux d'être français et d'être à la radio des clics pour montrer notre joie, notre fierté d'être français et d'avoir des citoyens si braves qu'ils donnent non seulement de leur temps, mais leur vie pour sauver les autres. Un pays ainsi, il n'existe pas ailleurs. À cause de ça, nous, les Français, on doit être heureux, être unis, parce qu'on a un beau pays, on a de braves citoyens, et chacun de nous être vigilant pour continuer cette démarche de bonheur, de la joie, tout le temps et partout. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, aussi, je suis heureux parce que j'ai appris mon ami ici, qui vraiment, elle martyrise les verbes, elle casse le mot pour fabriquer une autre signification. Et troisièmement, évidemment, je vais parler de notre héroïne, qui est Joséphine Baker. Elle aussi, malgré le moment difficile, l'époque, la négritude, l'esclavagisme, et elle a pu trouver une place et honorer à l'échelle nationale en France. Donc, qui est ces petites dames qu'on le voit devant nous, maigrichonne, souriante? Elle est née, cette dame, 1906, aux États-Unis, arrêtée l'école à 13 ans, parce que cette fille, elle rêvait à la grandeur. Mais ce n'est pas la grandeur, c'est de se montrer ce qu'il a de beauté, non, mais d'action, de persévérance, et montrer tout ce qu'il savait par la danse, par les chants, par le cinéma, par direction des revues. Et à 13 ans, elle commence à travailler et finalement à persévérer d'être connue en tant que danseuse aux États-Unis. Elle vient vers la France. Elle a passé un mauvais moment parce que pratiquement était le début de la Deuxième Guerre mondiale. Et il a essayé d'avoir nationalité française. Il a eu la nationalité française grâce à son mariage avec un Français. Et il a participé à servir la France qu'elle aimait tant. Même les Américains étaient jaloux d'elle parce qu'elle parlait le français pour les Américains. Eux, ils la considéraient comme une Américaine. Et ils ont fâché contre elle. Elle a dit non, je suis française. Elle s'engage dans l'armée secrète. Et elle fait tant de choses que la France l'honore. Et malgré ça, elle a continué. Elle a continué d'être une bonne citoyenne. Commence à chanter, commence à danser, commence à faire ses revues jusqu'à ce qu'elle ait obtenu la Légion d'honneur pour la bravoure pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ce n'est pas fini. Cette dame, elle a combattu, elle a lutté contre le racisme. Elle n'avait pas ses enfants, mais elle a adopté 12 enfants.
Oui.
De tous les continents.
Elle a adopté, oui.
De toutes les religions, les élever, agrandir, et toutes celles, grâce à son travail. Et une dame ainsi, lorsqu'elle a décédé l'année 1975, la nation toute entière, elle a suivi son cercueil et commence à la suivre, et la France, elle est fière d'elle. Même maintenant, moi, ce que je voulais dire pour les filles de 93, qu'elles connaissent d'avoir une dame de cette valeur, il faut avoir du courage. Tout est possible.
Oui, tout à fait.
Tout est possible.
En sachant que ça a été très difficile pour elle, hein, parce
très
que
difficile.
C'était encore
c'est comme je disais,
la ségrégation, c'est... etc. Donc elle passait par
et en plus, être noire, oui. Sa instruction et tout ça, elle a joué, mais elle a persévéré.
Oui.
Il n'y a que la persévérance qui arrive. Mes filles, si vous m'écoutez, persévérez. Allez à l'école, travaillez bien, fatiguez bien. Lorsqu'on fait, on a un but devant nous, on ne se fatigue pas. Et lorsque vous arrivez après à ce que vous souhaiterez dans la vie, ben j'ai dit bravo à vous, grâce à notre bon exemple, Joséphine Becker. Et merci de m'avoir écouté.
Eh bien, merci Georges, donc Joséphine Becker. Et puis si vous voulez en savoir plus, eh bien, n'hésitez pas à aller taper son nom sur le net. Il est l'heure, le temps passe très vite. On enchaîne tout de suite avec la chronique high-tech de Senzo.
Et oui, on est de retour avec la chronique high-tech. Aujourd'hui, on va parler des idées reçues sur les batteries de notre smartphone. Donc, en fait, pourquoi je fais cette chronique-là ? Parce qu'en fait, on a plein d'idées en se disant, oui, est-ce qu'il faut charger son téléphone toute la nuit ? Est-ce que quand on vient d'acheter un téléphone, on doit le laisser se décharger, le recharger, etc. Donc, en fait, tout ça, c'est des idées qu'on avait à l'époque où les technologies n'étaient pas encore assez évoluées comme aujourd'hui.
Mais donc, qui étaient vraies, finalement, en fait.
Oui, qui étaient vraies. Ouais. Qui étaient vraies, mais finalement, que les gens n'ont pas changé de regard dessus, parce qu'en fait, la technologie a évolué, mais les gens ne sont pas forcément au courant. Donc voilà, le but de cette chronique, c'est ça, c'est de mettre tout le monde au courant. Et... la première idée, c'est est-ce qu'il faut recharger son appareil totalement avant la première utilisation ? Donc avec les anciennes batteries, c'était le cas, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. En fait, quand on reçoit un smartphone, on le reçoit déjà, je pense, avec 80% de batterie, un truc comme ça. Et on n'est pas obligé de le laisser se décharger complètement pour qu'il se calibre, en fait, parce que c'était le calibrage qu'on cherchait à faire avant. Et en fait, les batteries d'aujourd'hui s'auto-calibrent elles-mêmes. Donc, c'est les batteries lithium-ion. Donc, il n'y a plus besoin de passer par cette étape. Ensuite, la deuxième question, c'est est-ce que laisser son téléphone chargé toute la nuit, est-ce que c'est mauvais pour la batterie ? Alors, aujourd'hui, nos appareils sont dotés d'un système qui arrête le chargement automatiquement quand le smartphone il est à 100%. Avant, ce n'était pas le cas, donc ce n'était pas conseillé de laisser un smartphone toute la nuit. Mais aujourd'hui, comme le smartphone sait qu'il a atteint les 100%, il s'arrête de charger, il se laisse une marge environ de 5%, et puis une fois arrivé vers 95%, il se re-recharge. Du coup, ce n'est pas si grave, en fait, ça a un faible impact sur la batterie. Et ce n'est pas ça qui va abîmer nos batteries.
D'accord, mais ça a un impact sur la facture quand même.
Sur la facture d'électricité, peut-être.
C'est pour ça qu'on disait de ne pas laisser non plus toute la nuit aussi
mais en
charger.
En tout cas, voilà, ça n'a plus vraiment d'impact à ce niveau-là. Et il faut savoir qu'un petit conseil au passage, il faut mieux charger son smartphone avec le chargeur officiel. Parce que lui est doté justement de ces technologies qui repèrent quand le smartphone est à 100%, il s'arrête automatiquement, il n'envoie pas du surplus. Donc, vaut mieux vraiment, même si c'est cher, payer le chargeur officiel de la marque en question.
Alors, chargeur officiel de la marque, ça peut être aussi en fait dans les magasins, type les grandes surfaces, etc., où ils vendent des câbles qui sont pas toujours de la marque, hein, parce qu'en général, ouais. C'est voilà. Quand tu dis marque officielle de la marque, on pense surtout à tous les appareils de la pomme, parce que là, oui, mais et encore quoi, parce que c'est vrai que au niveau Android, c'est déjà beaucoup plus facile de trouver des câbles.
Après, ce que je veux dire, c'est vous laissez pas avoir par des câbles ou des chargeurs moins chers que vous pouvez trouver ailleurs,
marché, par exemple,
alternatif, voilà, parce que c'est vraiment pas bon, parce que vous allez faire des économies, mais en vrai non, c'est vraiment pas bon, ça peut cramer le smartphone.
C'est ça, ça peut être dangereux même.
Ça peut être très dangereux, donc surtout si vous laissez votre téléphone chargé à côté de vous la nuit, vaut mieux pas utiliser ces chargeurs là. Et donc, troisième point, est-ce qu'il faut vider sa batterie entièrement avant de la recharger ? Donc, comme les batteries d'aujourd'hui, les lithium-ion, n'ont plus de mémoire de charge, du coup, il n'y a pas besoin en fait, d'attendre un certain pourcentage avant de la recharger, d'attendre qu'elle soit entièrement vide avant de recharger. Donc le conseil en fait c'est de la recharger autour des 10%, 20%, quand le smartphone en fait commence à vous dire voilà, j'ai plus trop de batterie,
voilà.
Mais vaut mieux pas attendre entre 1 et 5%, vaut mieux pas attendre ça, vaut mieux entre 10 et 20 commencer à recharger. Quatrième chose, est-ce que plus on recharge son smartphone, est-ce que la batterie dure moins longtemps? Alors non, en fait il faut savoir qu'une batterie elle a 1000 cycles, donc un cycle en fait c'est vraiment passer de 0 à 100%. Si vous la rechargez à partir de 50, bah le prochain cycle sera quand elle reviendra à 50 et que vous rechargez encore, quand vraiment c'est des cycles de 100%. Donc, alors, non, il n'y a pas vraiment de pourcentage.
Voilà, on ne rentre pas dans la polémique, hein, et notamment de la marque à la pomme, hein, sur quand même, ils ont quand même avoué qu'au niveau des batteries, ils faisaient un petit peu exprès de ne pas avoir une grande longévité.
Ça, c'était au niveau des performances surtout, oui. qu'à partir d'un certain pourcentage d'usage de la batterie, il bridait les performances pour éviter certains pics sur la batterie et du coup d'endommager certains appareils, parce que c'est à cause de ça qu'on a connu l'effet des appareils qui s'éteignaient. On avait 80% et le smartphone s'éteignait, on ne comprenait pas pourquoi. Du coup ils ont fait ça, mais leur polémique c'est de ne pas l'avoir dit aux utilisateurs ouvertement et de l'avoir fait un petit peu caché, mais sinon dans l'idée, le geste voilà, c'était pas méchant. Et ensuite la cinquième idée, c'est est-ce que la vitesse de recharge est toujours la même peu importe le chargeur qu'on utilise? Alors oui, en général c'est toujours la même, sauf si vous utilisez encore une fois un faux chargeur. Mais c'est pas pareil quand vous le branchez à l'ordinateur. Donc quand vous branchez à l'ordinateur, vous pouvez constater que l'appareil charge plus lentement que d'habitude. Donc encore une fois, vaut mieux mettre le prix dans un chargeur officiel et de la marque ou ce que vous trouvez en grande surface, et puis voilà, du coup la batterie après n'a pas vraiment de problème. Donc si vous respectez ça, à partir de ce moment là normalement vous n'avez pas de soucis de batterie. Et il faut savoir que quand vous laissez votre smartphone en train de charger et qu'il y a des applications qui tournent en fond, les applications plus gourmandes peuvent quand même continuer à prendre de la batterie pendant qu'ils chargent. Donc D'accord. ça peut aussi un peu endommager, donc vaut mieux on va dire fermer ces applications pour que ça évite de consommer, parce que ça consomme en vrai, ça continue de consommer, en plus ça demande plus au chargeur, du coup voilà, sur la facture là, du coup ouais, là on prend
d'accord
coup. Et donc voilà, ben
c'était on récapitule, hein, donc prendre un bon câble officiel, on va dire, ou acheter voilà dans les magasins officiels,
voilà.
Attention aux câbles vraiment bas prix qu'on peut retrouver sur les marchés, la vente à la sauvette, etc. Donc
tout
ça, il faut éviter
absolument. Ensuite, ne pas s'inquiéter au niveau des charges toute la nuit, ça n'a aucun incidence à partir du moment où vous avez ce fameux chargeur. Et puis ensuite, ce qu'on disait...
Et qu'on n'est pas obligé de le laisser décharger.
Voilà, on n'est pas obligé d'attendre les 0% ou 1%, 2%, on peut vraiment... chargé à partir de 10%, 20%, c'est d'accord. L'idéal.
Alors, petite question aussi, d'ailleurs, il y a eu des questions dans ce sens-là de nos auditeurs, justement sur les chargeurs là, qu'on branche à l'électricité. Alors, suivant le type de téléphone, Android ou iOS, finalement, il y a une histoire d'ampérage qui n'est pas les mêmes. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler, 1 ampère, c'est pour Android ou les autres, et vice-versa pour le 2 ampères?
Alors, en général, la marque à la pomme, elle utilise 1 ampère pour recharger ses iPhones. C'est le chargeur officiel qui est fourni dans la boîte. Les Samsung, ils utilisent 2 ampères. Et en fait, c'est une question de charge plus rapide. Hein.
C'est ça.
Voilà, voilà.
Donc, ça veut dire qu'on peut très bien quand même mettre son appareil à charger avec un adaptateur 2 ampères alors qu'il faut qu'un ampère.
Ouais, on peut
sur
les appareils à la pomme, mais avec encore une fois des chargeurs de qualité,
voilà.
Achetés dans le commerce.
Ok, mais alors parce que là on passe de 1 ampère à 2 ampères, donc dans ce cas-là tout va bien. Mais à l'inverse, Samsung pour le citer, entre autres, on va dire entre
alors
autres, hein, Android.
Charger un appareil qui nécessite 2 ampères avec 1 ampère,
voilà.
Là du coup on perd en vitesse de charge et on peut se retrouver en fait à stagner sur le même pourcentage.
D'accord,
du coup, si vous utilisez par exemple le GPS en voiture et vous chargez avec 1 ampère, bah, vous pouvez même vous retrouver à perdre de la batterie, mais plus lentement que si c'était pas branché.
D'accord.
Mais du coup, ça charge, mais pas assez.
Pas rapide. Donc autant prendre le 2 ampères quand on ne sait pas, au moins là.
Exact. D'ailleurs, on peut aussi recharger un iPhone avec le chargeur de l'iPad, lui qui a 2 ampères.
Oui,
on peut le recharger et voir, constater que c'est une charge un peu plus rapide.
Voilà. Parce que souvent, on trouve, et maintenant de plus en plus, des petits adaptateurs où il y a les deux. Il y a deux USB, ouais. Un USB pour Android et un USB pour les appareils Apple.
Ouais.
Si on se trompe, c'est pas très grave.
Non, c'est pas très grave. Tant qu'on lui donne pas en dessous de ce qu'il veut. Et aussi, voilà.
J'allais
dire un autre truc, mais bon, j'ai zappé.
En tout cas, par rapport à ça, on sait maintenant qu'il faut faire, en tout cas, attention. Alors, c'est vrai que là, c'est depuis quand justement ce changement de technologie?
Waouh, ça fait déjà quelques années, hein, vraiment. Depuis qu'on utilise en fait les batteries ion. Lithium-ion.
D'accord.
Et ça fait déjà pas mal de temps qu'on utilise ces batteries-là.
D'accord.
C'est juste qu'on a. Je pense qu'on n'a pas été mis à jour, les gens.
D'accord.
Dans nos têtes.
Mais alors, ça veut dire qu'aussi, les notices non plus ne sont pas toutes mises à jour. Parce que dans la notice, il y a justement. Il y avait marqué. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu de nouveau téléphone.
Ouais,
avec
voilà, aujourd'hui,
notice,
les notices.
Il y avait ces histoires des reçus, de faire attention, de le charger, enfin de le laisser décharger pour la première charge, etc.
Mais aujourd'hui, les notices, les gens ne prennent plus vraiment le temps de les lire.
C'est vrai.
Déjà.
C'est vrai.
Et puis elles deviennent de plus en plus petites. Aujourd'hui, on ressent un smartphone. Premier
démarrage
truc
rapide,
veut,
au moins déjà.
On veut démarrer le smartphone, on ne veut pas lire la notice. On sait s'en servir et puis voilà. Mais voilà. Donc,
Ok, très bien. Bah, écoute, merci Senzo pour cette chronique high-tech. Et bien voilà, notre émission touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. L'émission de la semaine prochaine, c'est l'émission. On fait une émission en live du conservatoire de Stain, le conservatoire Xenaki. Donc voilà, avec les élèves du conservatoire de Stain, les profs, etc. Donc vous en saurez plus la semaine prochaine. On retrouve la chronique high-tech, Senzo, au mois d'avril.
Ouais, sûrement au mois d'avril avec de nouvelles applis ou pourquoi pas même de nouveaux sujets. N'hésitez pas à nous envoyer des messages sur l'email de Radio Déclic.
Qui est radiodéclic@gmail.com ou sur la page Facebook Radio Déclic. Georges, on se retrouve donc le 20 avril pour un grand homme ou une grande femme.
C'est tout le plaisir, ça sera pour moi de vous revoir tous voilà. Et toutes.
Alors Georges est heureux aujourd'hui, donc on est aussi heureux quand il est heureux. Leslie sera là, on espère aussi pour l'agenda. Mehdi aussi sera là cette fois-ci. Adem, peut-être qu'on va te retrouver le 20 avril pour une page sportive. En tout cas, tu es bienvenu si tu veux nous faire les infos sportives régulièrement dans l'émission. Ça t'a plu, ton premier passage radio?
Oui, c'était très bien, je vous remercie.
D'accord. Bah, écoute, à bientôt, Adem. Et puis, on remercie encore notre invité Fred Luisor. Je rappelle son recueil Poésie que vous pouvez trouver dans les librairies, sur son site aussi internet Fred Luisor Musique, je crois, ou Fred Musique, alors fredmusique.com. Voilà, sur le site internet. Et si vous en voulez savoir plus, bah, vous nous joignez à Radio Déclic sur la page Radio Déclic Facebook ou radiodéclic@gmail.com. Ben, je crois que c'est tout. Alors évidemment, à la réalisation technique, c'est Gaëtan, notre technicien et programmateur musical. Voilà, ben, on se retrouve bientôt, en tout cas la semaine prochaine dans un premier temps avec les élèves du conservatoire de Stain. À bientôt. L'émission qui suit, c'est L'Envolée. Restez à l'écoute de FPP 106.3. Salut, bye bye.